Chapitre 2. Depuis que j'avais fait la connaissance de Guylaine, j'allais plus fréquemment chez Roger. Je me sentais plus proche de lui, lui, le grand séducteur. Il me semblait que nous avions plus de choses à nous dire, plus de plaisir à nous voir. Roger couchait à présent assez souvent dans sa famille. Il n'y voyait aucun inconvénient en lui. J'admirais qu'il y fût si bien, si tranquille. Puis, à la réflexion, je me disais que moi aussi j'aurais pu habiter chez des parents. Je n'avais aucune raison de l'envier. Je ne pouvais qu'en prendre qu'à moi-même. Je subissais au fond les conséquences de ma conduite passée. Voilà ce que c'est que d'aimer être seul. Il existe pourtant des gens qui connaissent peu de monde et qui trouvent partout du secours. Roger partageait donc son temps entre Lucienne et les siens. Il estimait qu'il ne courait plus aucun danger. Il n'avait plus aucune raison de ne pas rentrer chez lui quand il en avait envie. Il avait simplement dit à la concierge de ne parler de lui à personne. Si l'on venait le demander, elle devait répondre qu'elle ignorait où il était. Il avait également fait la leçon à ses parents, à ses amis, au directeur de la petite banque de la rue Drouot, à Lucienne, aux petites actrices qui la fréquentaient. Tout ce monde veillait sur lui, le prévenait du moindre événement suspect. Je trouvais cela admirable. Au milieu de tous ces gens qui connaissaient sa situation, il ne manifestait pas la moindre inquiétude alors que moi, je serais mort de peur. Quoique je souffrisse de savoir tant de gens au courant de sa situation, j'éprouvais une agréable sensation de sécurité en sa présence. Ma qualité d'ami me faisait bénéficier malgré tout des protections dont il était entouré. J'allais pourtant le voir de préférence chez son amie Lucienne, où il disait être très bien et où il y avait toujours très peu de monde. Il n'avait pas repris ses occupations rue Drouot. Il venait de trouver autre chose et j'avais l'impression qu'il avait gagné au change. Il sortait beaucoup, voyait ses amis, gagnait de l'argent. Quand je lui rendais visite, il était très content. Il me demandait ce que je faisais. Il ne comprenait pas que je ne me débrouille pas mieux et s'étonnait que je fusse si craintif. Il me disait que notre histoire était oubliée depuis longtemps, qu'à moins d'un accident, nous n'avions rien à craindre. Ce qui me surprenait, c'était la légèreté avec laquelle il envisageait cet accident. C'était justement cet accident suspendu sur nos têtes qui me rendait tellement craintif, mais lui ne s'en souciait pas. Il disait que les Boches étaient fichues, que la police avait autre chose à faire que de s'occuper de notre histoire. Elle mettait exprès du désordre partout, elle faisait semblant de travailler, mais par derrière, elle mettait des bâtons dans les roues. Que si elle voulait courir après des gens comme nous, il faudrait lui adjoindre les effectifs d'un corps d'armée. Enfin, que nous n'avions absolument rien à craindre. « Comment peux-tu t'imaginer, me disait-il, qu'on pense à toi dans une pareille pagaille ?» Ces paroles me remontaient le moral. Je lui faisais des objections pour l'inciter à continuer. Le ton ne baissait pas. Je n'avais qu'à ne pas m'en faire, qu'à laisser courir. Malheureusement, il lui arrivait de faire des réserves sur des cas particuliers. Je lui disais, comme s'il l'ignorait, que moi, j'étais justement un cas particulier. Je n'étais pas un évadé ordinaire. Il me répondait que non, que j'étais comme tout le monde. Je lui disais, tu sais bien que non. Il ne me répondait pas. Il changeait la conversation. C'était moi ensuite qui lui disais qu'il avait raison, qu'en effet nous n'avions rien à craindre. Il ne manquait jamais pour me taquiner de me parler de Pelet. « Méfie-toi de Pelet, » me disait-il quand la conversation tombait. Chaque fois il me glaçait. Pelet était donc à Paris. Je lui posais des questions, je lui demandais des éclaircissements. Il me disait qu'il avait vu Madame Pelet, qu'elle lui avait parlé de moi. Mais pourquoi allait-il voir Madame Pelet, puisqu'il était mon ami? Je le lui demandais. Il me regardait en riant et ne me répondait pas. Il m'emmenait parfois déjeuner dans un restaurant chic où il était connu de tous. J'ai une profonde antipathie pour les gens qui ne regardent pas ceux qui les servent, qui ignorent à quelle famille humaine ils appartiennent, qui, au théâtre, au restaurant, sont tellement absorbés par leur plaisir qu'ils n'ont pas un regard pour le petit monde qui les observe. J'étais obligé de faire comme ces gens, et cela m'était très désagréable. Roger avait envie de s'amuser. Je lui disais qu'il était complètement fou. Il ne m'écoutait pas et me forçait à limiter ce que je faisais, car je ne lui résistais jamais. Des amis nous demandaient comment c'était en Allemagne. On n'écoutait que lui. Personne ne paraissait se douter que j'en savais autant que lui. Au commencement, je n'étais pas tranquille. Je n'avais pas grande confiance dans l'apparente sécurité de ce restaurant ayant des protections en haut lieu. Il semblait qu'il ne pût rien arriver. Mais j'avais toujours présent à l'esprit la panique ou l'affolement possible. Je me disais que s'il y avait une descente de police, tous ces clients choisis seraient traités comme les autres. Ce serait un sauve-qui-peut général. Il ne resterait rien de cette belle apparence, et ceux qui seraient pris, ce seraient justement des gens comme moi, qui auraient joui du cadre, qui n'auraient pas osé fuir les premiers. Mais Roger me faisait boire et toutes mes sombres pensées s'évanouissaient. Une seule demeurait pourtant, malgré l'ivresse, une pensée étrange, celle d'un malheur survenant justement au moment où tout me paraissait si agréable, pensée que j'avais toujours d'ailleurs quand j'étais heureux. C'eût été vraiment de la malchance, et bien que je ne voulusse pas que mon plaisir cessât, je me réjouissais de sentir le temps passer, les probabilités d'un accident diminuer. Je me réjouissais à l'idée de partir, de nous séparer sans que rien ne fût arrivé. Quelquefois il y avait de la musique. Le vin aidant, j'avais tout à coup l'impression que mes soucis présents n'étaient rien à côté de la misère de ma vie manquée. J'avais cru, quelques années plus tôt, que je serais riche, et tout ce que j'avais entrepris avait échoué. J'avais été un mauvais peintre. Plusieurs fois, mon père n'avait pas voulu me revoir. Puis j'étais entré au contentieux de la Nationale. C'était tout ce que j'avais trouvé à faire dans la vie. Puis la guerre. J'étais parti comme tout le monde. J'avais été fait prisonnier comme presque tout le monde. J'avais pu me tirer d'affaire, mais à quel prix? Et aujourd'hui, j'étais là, seul, pourchassé, à côté d'un ami que j'admirais, mais qui ne ferait jamais rien pour moi. Je le sentais de plus en plus, je n'avais pas de grands moyens. Je pleurais alors sur cette pauvre vie manquée, sur ma destinée. Mais Roger ne pouvait pas s'en douter, il me frappait l'épaule. « Allons, allons, mon vieux, » disait-il, « ne pense pas tout le temps à ton ami Pelet. » Roger me présentait à son entourage. Ce fut ainsi que j'assistai un jour à une scène incroyable. À propos d'une histoire dont j'ignorais tout, il se disputa avec un de ces imbéciles qui, sans savoir de quoi il s'agit, prennent parti. Comme ils élevaient de plus en plus la voix, le patron du restaurant les pria de sortir. Ils s'en prirent alors à lui. Le patron alla chercher un agent. Une longue explication suivit. Des curieux s'étaient arrêtés, parmi lesquels des Allemands. Je tremblais, moi, surtout au moment où je sentais qu'on se fâchait vraiment, car j'avais autant peur d'une accusation fausse que d'une vraie. L'agent les départagea. Je me rendis compte que c'était naturellement Roger qui lui était le plus sympathique. Aux questions qu'il posait, il était visible que c'était à celui-ci qu'il voulait donner raison. J'eus peur alors que l'adversaire ne voulût faire appel à un autre agent moins partial. Puis, quand le différend se trouva réglé, je fus profondément choqué de voir que Roger n'eut même pas un regard de sympathie pour cet agent, à tel point que j'eus moi-même ce regard. Mais ce n'était pas la même chose et je sentis que l'agent ne fut pas touché par cette compensation. Enfin, Roger me prit par le bras et nous partîmes ensemble. Je ne pus m'empêcher de lui dire qu'il était imprudent. Il haussa les épaules. Lucienne avait remarqué qu'elle m'impressionnait beaucoup. Aussi, quand elle était bien disposée, faisait-elle beaucoup de frais pour moi. Mais quand elle ne l'était pas, je m'apercevais qu'un témoignage d'admiration venant de moi ne suffisait pas à modifier son humeur, et à peine m'adressait-elle la parole. Je craignais toujours qu'elle ne prît un peu ma déception pour de l'aigreur. Elle disait que j'étais triste. Roger lui avait certainement tout raconté, car elle faisait quelquefois entendre, par des allusions, que je n'étais pas ce dont j'avais l'air. Elle ne m'inspirait cependant pas une grande confiance. Je sentais qu'au fond, elle ne me trouvait pas très franc, et qu'en effet, chose étrange, je ne l'étais plus dès que je me trouvais en sa présence. Je sentais aussi qu'en tant qu'amie de l'homme qu'elle aimait, elle trouvait que je manquais un peu d'allure. Évidemment, j'étais un type étonnant puisque Roger le disait, et qu'il l'avait certainement constaté, mais à part cela, rien en ma personne ne sortait de l'ordinaire. J'avais toujours l'impression qu'elle me regardait comme une bête curieuse, qu'elle ne comprenait pas que Roger tînt à moi, et que puisque cela était, Il devait y avoir en moi quelque chose de bizarre que je lui cachais. Et pourquoi elle m'en voulait? Elle me faisait un peu peur. Non pas qu'elle tentât de me nuire, mais j'avais l'impression qu'elle ne manquerait pas de le faire, si jamais Roger la trompait. Et puis aussi, elle faisait souvent des scènes à Roger. Elle lui reprochait de l'empêcher de travailler, c'est-à-dire de danser, de l'obliger à vivre cloîtré. Elle prétendait qu'à présent, si elle avait la liberté de ses mouvements, elle gagnerait beaucoup d'argent. Quand j'arrivais au milieu d'une scène semblable, elle ne s'interrompait pas à cause de moi. Je sentais qu'elle était bien contente, au contraire, que j'y assiste. Bientôt, je remarquais que Roger devenait plus froid. Il cherchait même plusieurs fois à me prendre en défaut. Il me disait que je n'étais pas un ami. Je le regardais chaque fois avec surprise. Il n'insistait pas, et je sentais que dans le fond, cela lui était égal que je le fusse ou non. Et comme il n'aimait pas se contraindre, il lui était désagréable d'avoir à prendre au sérieux des histoires qui n'avaient pas le moindre intérêt pour lui. Un jour, comme j'arrivais, Roger vint à moi et me dit avec colère « Tu as l'aplomb de venir ?» J'ouvris de grands yeux. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» demandai-je. Il me dit, toujours avec la même colère, que j'avais dit du mal de lui. Je protestais. Alors, à ma grande surprise, sur mes vagues dénégations, sa colère tomba aussitôt et il dit « Ah bon, ça change tout. » Un autre jour, je les trouvais tous les deux ayant un peu bu. On me reçut avec beaucoup de plaisir. Puis on commença à me taquiner sur mon courage. « J'étais un dur, paraît-il. Je n'avais peur de personne. Quand je voyais un danger, je n'hésitais pas. Ce n'était pas moi qu'on aurait, etc. » De temps en temps, Roger feignait d'avoir peur de moi. Lucienne lui disait « Fais attention, sois prudent, ne le contredis pas, etc. » Je ne pouvais m'empêcher de rire. Mais bientôt, quelque chose me froissa profondément. Je n'avais pas la prétention d'être un dur, justement, ni celle d'être courageux, etc. Mais enfin, j'estimais malgré tout que j'avais fait preuve de courage, que sans moi, nous serions tous, Roger comme les autres, en train de charrier des rails. Et puis, c'est une chose profondément désagréable, que de sentir les gens douter de nos qualités, se moquer de ce que nous avons fait ensemble sérieusement, paraître de ne pas avoir été sincère avant. D'ailleurs, Roger le sentit, car peu après, il dit « Nous plaisantons, nous plaisantons !» Et comme Lucienne continuait, il la pria de s'arrêter. De la moquerie de mon courage, on passa à celle de ma liaison avec Guylaine. On s'est souvent moqué de moi, mais je ne sais pourquoi, venant de Roger, cela me touchait beaucoup plus, car mon désir était justement d'être pris au sérieux par lui. À certains moments, je dois dire, il abandonnait ce ton et redevenait celui que j'aimais, et il me parlait comme un ami. Mais même à ces instants, je sentais que je ne l'intéressais plus. Je ne crois même pas que Lucien y était pour quelque chose, car au fond, il avait toujours été ainsi. Je le voyais quelquefois seul. Je faisais tout ce qu'il me demandait. Nous sortions ensemble, mais le terrible était que je sentais très vite qu'il s'ennuyait avec moi. J'aimais chez Roger qu'il s'ennuyât dès qu'on ne faisait rien. J'étais comme lui, mais alors que je n'osais le montrer, il ne se gênait pas. Je sentais que je devenais pour lui semblable à ces mêmes gens qui m'ennuyaient moi aussi et auxquels il m'assimilait. « Tu te souviens quand on était en Belgique ?» disait quelquefois Roger qui avait l'air de croire que tout était fini quand il ne savait que dire. Mon plus grand plaisir était de l'accompagner, mais bien qu'il n'eût rien à faire, il refusait mon offre. Je lui demandais pourquoi. Il ne me répondait pas. Quelquefois, dans la rue, il s'arrêtait soudain et il me disait « Au revoir ». Je croyais qu'il allait partir. Comme il ne bougeait pas, je restais. Il me disait alors « Allez, va-t'en ». Je m'éloignais. Quand je me retournais, je le voyais toujours au même endroit, non pas pour me surveiller, car il ne regardait même pas dans ma direction. Plusieurs fois, l'idée me vint de le suivre. Rien n'eût été plus facile. Je ne l'aurais jamais fait avant. Mais comme il avait tellement changé, je résolus un jour de le faire. Je le vis marcher tout doucement. Il se retournait parfois pour regarder une femme. Ce qui me déplaisait maintenant chez lui, c'était qu'il avait toujours l'air de trouver Guylaine quelconque. Il la considérait un peu comme un riche personnage considérerait les dépenses d'un pauvre homme. Il avait une façon de faire excessivement méprisante. Il regardait juste les jambes. Chaque fois, il s'arrêtait. Il s'arrêtait aussi parfois devant un magasin, mais on sentait que rien ne l'intéressait. Un jour, il revint sur mes pas, me vit, mais détourna les yeux. Je ne devais plus le revoir.